Programme de l'Université de Bordeaux 3. Deuxième année du premier cycle, cours de français de Monsieur Tocan. L'humanisme, troisième émission.
L'humanisme est une notion vague. Tenter de définir l'humanisme de Montaigne suppose d'abord que l'on précise le sens que l'on donne au terme. Historiquement, il définit un retour à l'Antiquité dont l'inspiration profonde est de permettre à l'homme d'accomplir pleinement ses virtualités, de se réaliser pleinement. Montaigne pratique les anciens et il cherche dans les essais à définir un art de vivre qui permette précisément à l'individu de se réaliser. On retrouve donc chez lui l'inspiration fondamentale de l'humanisme. Mais Montaigne est l'héritier de tout un mouvement déjà ancien à l'époque où il écrit et qui connaît les troubles des guerres de religion et de la guerre civile. Sa réflexion n'a plus l'accent des premiers humanistes. Dans un monde incertain et troublé, Montaigne cherche comment vivre. C'est à partir de là que nous pouvons nous interroger sur le caractère particulier de l'humanisme de Montaigne en examinant son attitude à l'égard des anciens, son attitude à l'égard de la réalité humaine et enfin sa tentative pour dégager un art de vivre. Examinons tout d'abord les rapports de Montaigne et de l'Antiquité. Montaigne truffe ses chapitres d'anecdotes antiques et de citations antiques, d'allusions à des personnages ou des philosophes de l'Antiquité. Les premiers chapitres des essais ne sont même souvent que des sortes de notes de lecture auxquelles Montaigne ajoute quelques réflexions. Mais il s'écarte très vite d'un genre littéraire pratiqué par bien des humanistes qui consiste à résumer ou à citer des faits ou des pensées antiques. Les essais ne sont pas des morceaux d'antiquité plus ou moins adroitement recollés les uns aux autres. Dans une inversion très caractéristique de sa démarche, c'est l'antiquité qui vient s'insérer progressivement dans une réflexion personnelle. Cependant, cette réflexion personnelle elle-même s'inspire très souvent de thèmes de pensée antique. Ainsi, le chapitre « De ménager sa volonté » reprend un problème courant dans la philosophie antique, celui des passions et des désirs, ce que Montaigne appelle la presse, tout ce qui dans l'homme est impulsion affective qui le jette vers l'extérieur de lui-même. Le chapitre se meut, dans une démarche antique, commandé d'une part par la recherche d'une sagesse, d'une harmonie intérieure dans laquelle l'individu cherche d'abord à mettre de l'ordre en lui-même, et d'autre part la recherche d'un équilibre entre le souci de la vie personnelle et de la sagesse intérieure et celui de l'engagement dans le monde. Deux écoles s'opposaient à cet égard dans l'Antiquité. Les épicuriens pensaient que le sage doit vivre à l'écart du monde et se contenter de cultiver une sagesse purement personnelle et individuelle. Les stoïciens pensaient au contraire que le sage doit vivre dans le monde et participer aux affaires publiques. Montaigne, contre les épicuriens, et d'accord avec les stoïciens, affirme que le sage doit vivre dans le monde. Mais il n'adopte pas la position stoïcienne dans le problème des passions. Pour les stoïciens, le sage devait affronter les occasions qui peuvent favoriser l'apparition de la passion pour mieux montrer sa force à les dompter. Montaigne, sachant par expérience que la passion, une fois enracinée, est très difficile à dominer, développe longuement à la fin du chapitre la nécessité de se prémunir à l'avance contre les tentations passionnelles. Mais il ne se contente pas, là encore, de recoller les uns aux autres des morceaux de pensée antique. Ces thèmes antiques, ces problèmes, il les reprend parce qu'ils correspondent à des préoccupations personnelles et il confronte ce qu'ont dit les anciens à sa propre expérience. Chez Montaigne s'affirme ainsi une démarche critique à l'égard des anciens. Il refuse la position stoïcienne sur le problème des passions parce qu'elle se heurte à sa propre expérience qu'il a de lui-même et des autres. Dans le chapitre des coches, il confrontera de même une fausse explication du mal de mer, donnée par un ancien, au nom de sa propre expérience. Cette attitude critique à l'égard des anciens n'est pas nouvelle, et Montaigne n'est pas le premier à l'avoir pratiquée. Ce qui est plus nouveau, c'est l'insistance avec laquelle il réclame une attitude critique et libre à leur égard. À la dévotion, souvent excessive des humanistes, Montaigne oppose la nécessité de jeter un regard libre sur l'Antiquité, comme sur le reste du monde. C'est pourquoi, dans le chapitre de la pédanterie, il critique ceux qui se contentent de réciter et de savoir les anciens. « Nous savons dire, dit-il, Cicéron dit ainsi, voilà les mœurs de Platon, ce sont les mots mêmes d'Aristote. Mais nous, que disons-nous de nous-mêmes? Que jugeons-nous? Que faisons-nous? Autant en dirait un perroquet. » Le pédant est celui qui sait parler des anciens, mais sans profit pour lui et pour la conduite de sa vie, sans s'être assimilé personnellement la pensée des autres. Nous prenons en garde les opinions et le savoir d'autrui, et puis c'est tout. Il les faut faire nôtres, dit-il. C'est ce que Montaigne développe dans le chapitre de l'institution des enfants. Le savoir purement livresque est inutile et vain. Montaigne veut que le savoir soit subordonné à la formation du jugement et à la conduite de la vie. Le maître ne doit pas imposer à l'élève la pensée des autres. Les principes d'Aristote, dit Montaigne, ne lui soient principes non plus que ceux des stoïciens ou épicuriens. La liberté critique est la condition de la formation du jugement, et c'est par elle que l'élève peut faire sienne les pensées des autres. Il les transformera, dit-il, et confondra, pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement. Et le contact avec les anciens vise non point à accumuler un savoir, mais à mieux vivre. Le gain de notre étude, c'est en être devenu meilleur et plus sage. Les anciens gardent donc un rôle, mais qui n'est plus exclusif. Montaigne insiste aussi en effet sur la nécessité de se former au contact de l'expérience et du monde. À travers tout cet ensemble de réflexions, s'opère en réalité une transformation des rapports entre la formation de l'homme et le rôle de l'Antiquité. Elle n'est plus un modèle exemplaire et privilégié de formation, et le livre lui-même n'est plus l'instrument par excellence de la formation humaine. Montaigne prolonge sans doute tout un aspect de l'humanisme, mais il affirme une liberté à l'égard des anciens, une exigence d'assimilation personnelle, et plus profondément une exigence de pensée personnelle, dans laquelle il prend ses distances à l'égard d'une forme d'humanisme qui lui paraît pédante, verbale et stérile. Ce programme d'éducation est le reflet de la propre pratique de Montaigne. Les anciens ne sont pas invoqués dans les essais comme des autorités, et Montaigne les critique, les confronte avec ce que la vie lui a enseigné. Le livre est sans cesse mis en rapport avec l'expérience. Mais en même temps, le livre sert à élargir le champ de l'expérience. Lire les anciens, ce n'est pas trouver une réponse toute faite à des questions que l'on peut se poser, c'est aussi entrer en contact avec l'inépuisable variété et la diversité de l'homme. C'est pourquoi Montaigne recommande et pratique la lecture, tout particulièrement des historiens. Une étude de fruits inestimables, affirme-t-il. Les anecdotes antiques qui parsèment les chapitres des essais jouent par là un rôle bien précis. Elles illustrent un fait humain dont Montaigne retrouve la manifestation aussi bien dans le présent que dans le passé. Mais par là, Montaigne rejoint la grande tradition de l'humanisme pour qui le passé n'est pas essentiellement différent du présent et permet de retrouver sous des formes multiples le visage d'une humanité qui ne connaît pas en réalité de devenir. Montaigne pratique donc les anciens en humaniste, mais dans une perspective bien personnelle. Perdant leur rôle d'autorité privilégiée et exclusive, confrontés à l'expérience, assimilés, les anciens sont pour lui des hommes présents que l'on peut interroger librement pour trouver parfois une réponse à des questions que l'on se pose personnellement, réponse que l'on fait sienne en l'appliquant à sa propre vie en se l'incorporant. Les essais offrent par là l'exemple d'une lecture humaniste du passé antique dans laquelle s'instaure une sorte de dialogue entre le lecteur et le livre en fonction des problèmes qu'il se pose et de son expérience. Mais la lecture de Montaigne marque aussi une rupture avec tout un aspect de l'humanisme. Montaigne méprise le savoir purement spéculatif, la connaissance théorique, et du même coup tente à discréditer l'humanisme érudit. On trouve chez lui déjà le mépris pour la science qui marquera l'honnête homme du XVIIe siècle. Envisageons maintenant les rapports de Montaigne et de la réalité humaine. Le premier humanisme cherchait surtout à dresser, à l'image des grands modèles de l'Antiquité, l'image exemplaire d'une humanité en pleine possession de son être. La démarche de Montaigne n'obéit plus exactement au même principe. Il y a d'abord chez lui ce qu'on pourrait appeler une sorte de dévaluation de la réalité humaine. À ses débuts, l'humanisme avait insisté sur la dignité et la grandeur de l'homme. La réforme, au contraire, avait mis en valeur la faiblesse de la créature soumise au poids de la faute originelle et du péché. Montaigne ne partage plus la confiance des débuts de la Renaissance dans la grandeur de l'homme, sans se rallier pour autant à la vision de la réforme. Mais il y a chez lui, constamment affirmé, une tendance à souligner la faiblesse de l'homme. L'apologie de Raymond de Sebonde, inspirée de très près par la philosophie sceptique grecque, avait insisté sur la faiblesse de la connaissance humaine, incapable par ses propres moyens d'atteindre une vérité absolue. Ces thèmes se retrouvent encore dans le chapitre des coches. Au début du chapitre, Montaigne se moque des auteurs qui avancent des explications illusoires, démenties par l'expérience. Il y a dans l'homme une vanité essentielle qui le pousse pour se faire valoir, à prendre ses propres songes pour la vérité. Il dénonce plus loin la vanité qui nous fait croire que notre connaissance puisse appréhender la totalité du réel. « Je crains, dit-il, que notre connaissance soit faible en tous sens. Nous ne voyons ni guère loin, ni guère arrière. Elle embrasse peu et vit peu, courte et en étendue de temps et en étendue de matière. » Ainsi, l'Europe croyait avoir découvert l'artillerie et l'imprimerie, mais elle a découvert que ses inventions avaient été depuis longtemps trouvées en Chine. Montaigne confronte perpétuellement ce que nous pensons et ce qui est, notre connaissance et la réalité, pour souligner la distance qui existe entre les deux. Montaigne souligne dans le chapitre de « Ne ménager sa volonté » la puissance de la passion sur l'homme. Il sait par expérience, pour vivre à une époque troublée, ravagée par les guerres religieuses, le poids du fanatisme passionnel et les illusions, les erreurs de jugement que provoquent les passions dans l'appréciation correcte de la réalité. Montaigne dénonce enfin l'illusion essentielle qui nous fait tout mesurer et juger par rapport à nos propres normes de jugement, à nos propres habitudes, à nos propres coutumes, auxquelles nous conférons spontanément une valeur universelle et absolue. Ainsi, dit-il, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage, comme de vrai. Il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. C'est pourquoi les cannibales paraissent barbares aux Européens. C'est l'illusion de l'absolu que ne cesse de dénoncer Montaigne et dont il constate les ravages. Montaigne souligne ensuite ce qu'on pourrait appeler la diversité humaine. À cette illusion de détenir la vérité absolue, il oppose la réalité humaine dans son inépuisable diversité. Il y a là encore une différence sensible avec le premier humanisme, qui ne connaissait que l'humanité antique et pensait qu'il pouvait y avoir une sorte de modèle commun et universel de l'homme. Le champ de Montaigne est beaucoup plus vaste. Il fait partie d'une génération qui peut apprendre, par des relations de voyage très nombreuses à l'époque, la diversité des mœurs, des coutumes et des croyances de l'homme. L'histoire elle-même élargie dans le temps, comme les relations de voyage dans l'espace, le champ d'enquête de Montaigne et l'expérience qu'il a de lui-même dans la connaissance de soi, lui révèle la diversité de son propre moi, exemple parmi d'autres de l'universelle diversité humaine. « Je ne puis assurer mon objet. Il va trouble et chancelant d'une ivresse naturelle », affirme-t-il en parlant de soi. Montaigne se sépare là de toute une tendance du premier humanisme et de la philosophie en général, qui prétend définir l'essence de l'homme. Montaigne ne dit pas ce qu'est l'homme, mais ce que sont les hommes. Et il s'engage dans une enquête empirique sur les multiples variétés des hommes, sur les multiples faces de son propre moi. Il aboutit à ce qu'on pourrait appeler, par là, une position relativiste. La réalité humaine tend dans les essais à se fragmenter, à se dissoudre dans un ensemble inépuisable de singularités, et en même temps la connaissance humaine est sans cesse critiquée dans ses prétentions à atteindre une vérité absolue. Montaigne, s'il ne le découvre pas le premier, est le premier à mettre en valeur de façon aussi constante le caractère essentiellement relatif des opinions, des jugements que nous portons sur les êtres et sur les choses. Si les Européens voient dans les cannibales des barbares, parce qu'ils ne vivent pas comme eux, Les cannibales servent aussi à Montaigne à montrer le caractère relatif des institutions et des coutumes européennes dans l'épisode où un cannibale, débarquant en Europe, s'étonne de voir un tout jeune enfant à qui obéissent des hommes en armes. Il s'agit du dauphin. Et Montaigne, sans critiquer l'institution de la royauté, s'amuse à montrer que les usages de la monarchie peuvent paraître aussi insolites et étranges à d'autres que les usages des cannibales pour un Européen. Et c'est pourquoi il insistera dans le chapitre de l'institution des enfants sur la valeur formatrice des voyages. Ils apprennent à se situer plus correctement dans l'ensemble du monde, à ne pas tout juger en fonction de ce que nous avons l'habitude de voir. Tant d'humeurs, dit-il, de sectes, de jugements, d'opinions, de lois et de coutumes, nous apprennent à juger sainement des nôtres et apprennent notre jugement à reconnaître son imperfection et sa naturelle faiblesse, qui n'est pas un léger apprentissage. La conscience du relatif est la condition nécessaire pour se situer correctement dans le monde et parmi les autres. Et c'est elle qui permet en même temps d'éviter les jugements absolus et toutes les formes de fanatisme que Montaigne dénonce, par exemple à propos des guerres de religion, toutes les attitudes dans lesquelles un homme est incapable de comprendre et d'accepter qu'il puisse y avoir un autre différent de lui, et le condamne ou le méprise. Le sens du relatif amène ainsi Montaigne à réclamer la tolérance. Sous des biais divers, c'est cette idée qu'il reprend dans le chapitre de Ménager sa volonté, dirigé contre le fanatisme passionnel en matière de politique et de religion, dans le chapitre des cannibales, qui proteste contre le mépris injustifié pour des peuples différents de l'Europe, et dans le chapitre des coches. Le drame de la conquête du Nouveau Monde par les Espagnols tire, en partie du moins, son origine de l'incapacité, fondée sur le sentiment tout illusoire d'une supériorité radicale et essentielle, où l'Europe a été de savoir reconnaître et accepter l'existence de peuples différents. Montaigne retrouve par là quelque chose de l'inspiration des premiers humanistes, qui avaient rêvé d'une paix universelle, notamment entre les religions, en se fondant sur le sentiment d'une similitude profonde entre les diverses religions au-delà de leurs différences. Mais Montaigne n'adopte pas exactement la même perspective. Il vit dans un monde déchiré par la guerre. Il est au courant des scandales de la conquête espagnole et il réclame que les hommes s'acceptent dans leurs différences. Il ne cherche pas à retrouver une similitude qui n'existe pas entre les croyances et les coutumes. Examinons maintenant, à partir de cette position, quelle a été l'attitude de Montaigne dans le problème fondamental qui commande toute la démarche des essais et qui est celui de l'art de vivre. Montaigne n'est pas un collectionneur de singularités et de diversités humaines. Son problème, c'est de savoir comment vivre. Et le savoir n'est pour lui que le moyen de mieux vivre. Savoir vivre, c'est savoir se situer dans un monde divers, avoir le sens du relatif et des limites des possibilités humaines. Ce qu'on appelle l'art de vivre de Montaigne est commandé pour une très large part par cette perspective essentielle chez lui. Elle entraîne tout d'abord ce qu'on pourrait appeler l'abandon de l'élan réformateur qui avait caractérisé, au moins à ses débuts, l'humanisme. Les humanistes avaient rêvé en Italie de reconstituer la grandeur de la République romaine. Ils avaient rêvé dans l'Europe de promouvoir une réforme religieuse. La pensée de la Renaissance est traversée, surtout à ses débuts, par tout un courant réformateur qui s'exprime dans la construction d'utopie, dont la plus célèbre est l'utopie de l'humaniste anglais Thomas More, tableau d'un état idéal. Montaigne renonce aux rêves utopiques de l'humanisme. Le chapitre des Coches esquisse ce que peut être une bonne politique royale, soucieuse du bien public, et non de montre, comme il dit, et de vanité. Mais on ne trouve pas dans les essais la description utopique d'un état idéal. Sans doute, les cannibales sont bien opposés par Montaigne aux Européens, comme l'exemple d'un peuple qui vit plus conformément à la nature. Mais Montaigne ne prêche pas un retour à l'état de nature. Les Indiens du Pérou et du Mexique sont des modèles de peuples sages. Mais Montaigne ne propose pas de rebâtir la monarchie française à leur exemple. Il n'accepte pas la réforme et reste fidèle à la foi de ses ancêtres. En politique, comme en religion, Montaigne, le fait est bien connu, est conservateur. Son grand principe, c'est qu'il faut suivre les coutumes de son propre pays. Mais cette position conservatrice s'accompagne d'une lucidité critique à l'égard de la coutume. Il faut suivre la coutume, non point parce qu'elle est bonne, mais parce qu'elle est coutume, et en ne confondant point ce qui est avec ce qui doit être. Elle est faite d'institutions et non de nature, relative à un état historique et à un peuple donné. Cependant, la sagesse demande de s'y soumettre parce que l'homme est incapable de définir de manière absolue le juste et l'injuste et de concevoir un état parfait. Par ailleurs, Montaigne a pu constater par l'expérience que le désir de changer pouvait aboutir au pire, ce qui lui permettait d'affirmer « Je suis dégoûté de la nouvelleté, quelque visage qu'elle porte, et ai raison, car j'en ai vu des effets très dommageables. » Il y a à cet égard une différence très profonde entre l'humanisme du début de la Renaissance et celui de Montaigne. Pourtant, tout en renonçant à ses aspirations réformatrices et utopiques des débuts de l'humanisme, Montaigne n'est pas prêt à tout accepter, à tout entériner. Il a critiqué, dans un terrible réquisitoire, la conquête du Nouveau Monde par les Espagnols, au nom d'un ordre de valeurs dont il n'a jamais douté. La position de Montaigne se définit ainsi par un équilibre entre la soumission aux usages, la méfiance à l'égard des volontés réformatrices et la lucidité critique qui juge la coutume en refusant de l'identifier à un absolu et qui dénonce des pratiques scandaleuses au nom d'un ordre de valeurs qui s'impose à l'esprit. Si Montaigne renonce à l'élan réformateur de l'humanisme, c'est que son centre de recherche fondamental, c'est la recherche de la sagesse. Montaigne est avant tout orienté vers la conquête d'une sagesse. Il s'agit là encore d'une notion antique. Pourtant, Montaigne ne cherche pas à modeler sa pensée et sa vie sur une philosophie antique. Et il proteste, dans le chapitre de l'institution des enfants, contre ceux qui ne font que répéter les anciens. La sagesse est le fruit d'une très longue et très difficile recherche pour savoir trouver un art de vivre qui soit adapté au monde et à soi. Tout le programme d'éducation de Montaigne est fondé précisément sur cette recherche, permettre à un homme d'être lui-même et de vivre avec les autres hommes dans le monde. Montaigne prolonge en ce sens l'inspiration des premiers humanistes. Mais il la corrige et il l'infléchit. Il renonce au rêve de connaissances encyclopédiques, dont Rabelais se faisait encore l'écho. Il insiste bien davantage sur l'expérience du monde, par opposition à la connaissance livresque, et il supprime de son programme d'éducation, fait révélateur, toute référence à une réalité religieuse. Il met en valeur la nécessité fondamentale d'apprendre à l'élève à juger par lui-même. La sagesse est liée pour Montaigne à l'exercice d'un jugement autonome. Elle suppose aussi, et les voyages comme la lecture des anciens sont essentiels à cet égard à ses yeux, la connaissance directe, expérimentale, de l'incertitude de la connaissance humaine, de la diversité humaine et en même temps des limites de l'homme. Elle suppose enfin et surtout la connaissance de soi, la découverte progressive de ce que l'on est, de sa forme propre. Et c'est en ce sens que les essais doivent être lus aux yeux de Montaigne. Il ne propose pas une sagesse théorique et abstraite, ni une sagesse universelle. Il définit ce qui constitue à ses yeux le cadre et les conditions dans lesquelles peut apparaître la sagesse qu'il appartient à chacun de trouver pour lui-même. Montaigne s'est essayé, conformément au titre même de cet ouvrage, dans cette recherche, et il propose le fruit de cet essai et de ses essais à ses lecteurs. Il n'est personne, dit-il, s'il s'écoute, qui ne découvre en soi une forme sienne, une forme maîtresse qui lutte contre l'institution, c'est-à-dire contre tout ce qui est imposé de l'extérieur par le milieu, et contre la tempête des passions qui lui sont contraires. C'est à se mettre à l'écoute de soi, beaucoup plus qu'à l'école des anciens, que Montaigne invite son lecteur. On mesure par là le chemin parcouru par Montaigne. La pensée des essais est nourrie par toute une culture antique. Mais l'inspiration profonde des essais n'est plus exactement guidée par le souci de se référer à des modèles antiques. Montaigne ne rejette pas les anciens. Mais ils sont pour lui comme des compagnons de route que l'on interroge parce qu'ils se sont posés des problèmes que l'on rencontre comme eux dans la vie. Il ne rejette pas leur enseignement, mais il se l'est incorporé et l'a fait sien. Mais au moment où Montaigne pouvait sembler rompre avec un certain humanisme, celui de son temps, qui bien souvent n'était surtout en Italie que répétition stérile de la pensée antique, il retrouvait une inspiration essentielle à l'humanisme, qui avait voulu former par le contact avec l'Antiquité des hommes capables de vivre dans le monde et des individus autonomes. Montaigne ne cherche pas à s'identifier à quelque grand homme de l'Antiquité, mais à lui-même. Avec Montaigne, l'humanisme en même temps accuse une de ses virtualités. La pensée de Montaigne, sans être hostile au christianisme, se développe de façon autonome. Ce n'est pas au nom de la morale chrétienne que Montaigne porte ses jugements, mais au nom d'une morale laïcisée. D'autre part, à travers le chapitre de l'institution des enfants, surtout, commence à se dessiner un type d'homme que l'humanisme de la Renaissance à ses débuts ne comportait qu'à l'état de germe, celui de l'honnête homme, qui connaît les anciens sans doute, mais qui refuse l'érudition et le savoir encyclopédique, la pédanterie, et songe d'abord à vivre dans le monde. Enfin, l'humanisme s'élargit dans les essais. Il n'est plus un effort presque exclusif pour retrouver l'Antiquité, mais une investigation portant sur toutes les formes de l'humanité, une ouverture large et compréhensive sur la totalité multiforme de tout ce qui est fait humain. Montaigne a renoncé au grand rêve de l'humanisme, il a perdu beaucoup de ses illusions, il poursuit cependant son effort en mettant au centre de son étude la réalité humaine.